Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahi la yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني قال عليه الصلاة والسلام لا قال فمن يمنعك مني قال عليه الصلاة والسلام الله وفي رواية قال من يمنعك مني قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله إلى آخر الحديث انتهى. شفاء الإسلام نغمس الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous asseoir un instant pour étudier un épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet épisode se passe après une campagne qui s'appelait Dhat al-Riqa'. Et au retour de cette campagne, le prophète alayhi salat wa salam s'était arrêté avec des sahaba dans un endroit où il y avait des branches, où il y avait des arbres avec des épines. Et il y avait un arbre qui était beaucoup plus grand et un arbre qui donnait de l'ombre. Et ils ont laissé cet arbre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salat wa salam s'est donc allongé à l'ombre de cet arbre et il a accroché son épée donc sur une des branches. Et donc le prophète alayhi salat wa salam s'était assoupi et c'était donc l'après-midi. C'est ce qu'on appelle Al-Qaylula. Et à cet instant, un bédouin, Arabi. Arabi, c'est quelqu'un qui habite dans le désert. Dans certaines sources, cette personne faisait partie de la tribu qui avait combattu les musulmans. Et certainement, cette personne était venue et avait trouvé l'occasion de se venger. Et cette personne a saisi l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tout le monde dormait profondément. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'avait rien vu venir. Et il a pris son épée, il a présenté au prophète alayhi salat wa salam qui s'est réveillé et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa salam qui te protège contre moi, man yamna'uka minni, qui m'empêche de te porter atteinte. Le prophète alayhi salat wa salam n'a pas bougé. Le prophète lui a dit avec calme, sérénité. On a deux adjectifs en français, c'est calme et sérénité. Mais nous on a besoin d'un autre adjectif. Avec tawakkul et yaqin, ça c'est plus fort. Avec conviction en Allah, que c'est Allah qui a créé la situation. C'est Allah qui a décidé qu'il s'arrête à cet endroit. C'est Allah qui a décidé que les sahaba laissent l'arbre le plus visible, le plus grand, pour lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui a mis dans son cœur d'accrocher son épée à cet arbre. Et non pas s'allonger avec l'épée attachée à sa ceinture, ou comme les Arabes avaient l'habitude de faire, à cette époque certainement. C'est Allah qui a décidé que ce bédouin trouve l'endroit où les musulmans se sont arrêtés. C'est Allah qui a décidé que ce bédouin reconnaisse qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas musulman, donc qui n'a peut-être jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah qui a mis dans son cœur de décrocher l'épée et de menacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que cela soit une leçon pour l'humanité, une leçon de conviction et de confiance en Allah. Et en commentaire, je pense qu'on avait légèrement abordé ce hadith la dernière fois, lorsqu'on est en danger, lorsqu'une personne nous menace et qu'on sait pertinemment que notre vie, entre guillemets, est entre ses mains, il y a plusieurs réactions possibles. Parmi les réactions possibles, la personne s'enfuit. Parmi les réactions possibles, la personne implore pardon et pitié. Parmi les réactions possibles, la personne donne ce que la personne a demandé ou se laisse faire. Le prophète alayhi salat wa salam, bien sûr, n'adopte aucune de ces réactions. Il y a une réaction par contre qui n'est pas dans les réactions normalement humaines. C'est la personne qui se tient droit et fière avec plus d'assurance que celui qui tient l'arme. La personne qui est victime et qui est prêt à mourir, mais qui a plus de, je ne dis pas de fierté, mais plus d'assurance que celui qui détient l'arme. Mais pour avoir une telle assurance, tu dois croire quelque chose de spécial. Soit dans ton cœur, tu sais qu'au-dessus de lui, il y a un drone qui le pointe. Soit tu sais qu'il y a 5 personnes qui ont les lasers à viser sur lui. Là, tu peux avoir un peu de sérénité. Mais encore, et là encore, tu sais qu'en une fraction de seconde, même si le mec peut te tuer aussi. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de matériel qui a rassuré le prophète. Les sahabas dormaient. Combien de sahabas il y avait? Il n'y a pas de chiffre, mais beaucoup. Est-ce que Allah, subhanallah, sans le moindre doute, Allah aurait pu mettre de le cœur des sahabas se réveiller pour protéger le prophète? Comme il avait fait à Uhud, par exemple, les sahabas. Mais Allah a décidé que cette fois-ci, le prophète soit livré à son ennemi seul, désarmé. Et bien au contraire, c'est l'ennemi qui a l'arme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à cette personne qui menace sa vie avec beaucoup de confiance, de sérénité, mais confiance et conviction en Allah, c'est Allah. Quand il demande qui c'est qui te protège contre moi, c'est Allah. Qui m'empêche de te tuer, c'est Allah. À 3 reprises, le prophète alayhi salatu wa salam lui a répondu de cette façon. Et dans une version, il est dit qu'à un moment donné, l'épée est tombée de sa main. Comment est-ce que l'épée tombe de sa main? Les ulama, rahimahullah, expliquent qu'un homme qui est prêt à tuer quelqu'un d'autre, quand il prend l'arme, c'est avec fermeté, avec envie de vengeance. Une épée, ça ne tombe pas d'une main comme ça. Et la personne, c'est un bédouin, un arabi. On ne parle pas de quelqu'un qui est frêle, qui est maigre, qui n'arrive pas à porter une épée de 5 kilos. Non, c'est un arabi. Les bédouins, c'est des gens du désert. C'est des gens qui ont grandi dans le désert. C'est des gens qui sont durs, qui physiquement, ils sont forts. C'est pas une épée qui est trop lourde pour ce genre de personne. C'est Allah qui a décidé que sa nusrat vient de cette façon, que la main du bédouin ne peut plus tenir l'arme. Et l'arme tombe. Et là, en parenthèse, les savants disent, voyez, l'aide d'Allah Azza wa Jal peut intervenir avec ou sans intermédiaire. On avait vu la semaine dernière les hadiths d'Ibrahim a.s. et de Younous a.s. si je ne me trompe pas, l'aide d'Allah vient par des intermédiaires. Et là, on a vu également l'époque de notre prophète a.s. de d'autres événements qu'Allah envoie son aide, comme par exemple à Badr, où les anges sont venus aider les musulmans confrontés à leurs ennemis. Là, Allah Azza wa Jal montre, il donne une leçon de foi et de conviction que quand quelqu'un a confiance en Allah, il peut obtenir l'aide d'Allah d'une façon totalement invisible, incompréhensible et, entre parenthèses, incohérente. Ce n'est pas cohérent que quelqu'un laisse l'arme tomber devant son ennemi. Il sait pertinemment que l'ennemi va attraper. Les savants disent comment, voyez, l'arme est tombée et il n'est pas précisé qu'il s'est baissé pour le ramasser. Il ne pouvait plus le faire. On peut en déduire qu'il était comme paralysé. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais l'épée tombe. Et les hadiths, il y a 2 versions, mais aucune version ne précise si le bédouin avait essayé de le rattraper. Lorsque l'épée tombe, Allah décide que l'épée tombe auprès du prophète pour que lui maintenant le saisisse. Et là, le prophète va dire la même chose. Qui te protège contre moi? Et là, il va implorer d'une certaine façon la pitié du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que le prophète sallam va lui demander? Est-ce que tu attestes la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ça va dire, voyez comment est-ce que le prophète était haris. Il voulait en priorité la guider des gens. C'est pas que le prophète voulait la vengeance, c'est pas que le prophète voulait rétablir la justice, l'ordre ou se venger, on va dire, de quelqu'un qui a essayé de porter atteinte à sa vie. Le prophète lui demande en premier lieu, est-ce que tu attestes la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Mais ce bédouin dit non. Salam wa barakatuh. Khairan jazakallah khair. Tu le manques de marque? Non. Si c'était une montre dessus, j'aurais pris. Mais je ne connais pas cette marque. Khair, Inch'Allah, on mettra ça au responsable. Zakallah khair. Donc, on revient à notre histoire. Et oui, la personne dit que non. Il n'a pas accepté l'islam. Il a dit que je te promets. Walakini wa'ahiduka. Je te fais la promesse. Et quand les Arabes, ils disaient wa'ahiduka, quand ils donnaient une parole, c'était une parole. Je te fais la promesse de ne jamais plus te combattre, ni m'opposer à toi, ni même m'associer avec des gens qui vont te livrer combat. » Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a laissé partir. Quelle est la grande leçon à retenir? Certainement, sans le moindre doute, si le mu'allif a mis ce hadith dans Bab al-Yaqin wa al-Tawakkul, c'est pour nous montrer quelle est la confiance d'un nabi, un prophète d'Allah. Quand il a confiance en Allah, c'est comme ça. C'est une confiance qui n'a pas de limite face à un danger qui n'a pas de limite, dans une situation où il n'y a aucune garantie d'avoir une aide extérieure, mais il sait qu'Allah Azza wa Jal est avec lui. Hada. Alors, il y a pas mal de commentaires. On a pu réunir des commentaires de deux livres différents, dans lesquels, en résumé, on pourrait dire, donc, il avait parlé de la sieste, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire une sieste muntasifun nahar, au milieu de la journée, on va dire, ce qu'on appelle le qayloula, l'heure du midi ou après la salat al-dhuhr. C'était une habitude du prophète alayhi salat wa sallam, donc, de se reposer. Il y a la leçon, bi quwwatu yaqini nabi sallallahu alayhi wa sallam, bi kifayatillah. Cette conviction qu'Allah le suffit. Le fameux Hasbunallahu wa ni'mal wakil, qu'Allah nous suffit, et si Allah est avec nous, subhanallah, personne ne peut nous faire quoi que ce soit. Et il dit que c'est une situation où yahtazzu fihi al-insan, où l'être humain normalement perd ses moyens, mais le prophète alayhi salat wa salam montre bien au contraire que il a une confiance inébranlable en Allah azza wa jalla. Parmi les leçons que les différents muhaddithin, ils ont mentionné, ils disent voilà, il y a quelque chose qu'on appelle al-khawf al-tabi'i, la peur instinctive, la peur naturelle, ce qu'on peut appeler également l'instinct de survie. Quand quelqu'un est proche de la mort, ben il a des réactions qu'il n'aurait pas eu en temps normal. C'est l'instinct où on s'accroche à la vie, où on peut dire n'importe quoi et on peut faire n'importe quoi. Mais le prophète alayhi salat wa salam n'avait même pas cette khawf tabi'i, cette crainte qui est instinctive, qui est naturelle, parce que son cœur était rempli de confiance en Allah azza wa jal. Il va citer d'autres exemples pour vous montrer quelle était la shaja'a. Shaja'a, c'est le courage et la confiance. C'est pas que le prophète était courageux parce qu'il était fort. C'est pas qu'il était courageux parce qu'il était chef d'une armée ou qu'il était respecté des gens. C'est qu'il est courageux, pas parce qu'il compte sur des centaines ou des milliers de sahaba. Les ennemis ont toujours été en supériorité numérique. Ce qui faisait qu'ils avaient la victoire, c'est qu'ils avaient confiance en Allah. Et la fois où certains qui venaient d'accepter l'islam ou d'autres qui n'étaient pas encore vraiment dans l'islam et qui s'étaient joints aux musulmans et que ça a causé un début de défaite à l'armée musulmane, c'est la bataille de Hunayn. Wa yawma Hunaynin idh a'jabatkum kathratukum. Mais mis à part Hunayn, même à Hunayn, les musulmans étaient moins nombreux, mais ils étaient plus nombreux que d'habitude. Bien que le prophète n'a jamais été en supériorité numérique que le sahaba, mais cette confiance, c'est pas par rapport, je répète, au nombre ou à l'effectif, c'est une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Donc, kamalul yaqin bi kifayatillah, également kamalul tawakkul, une confiance totale, wa tafwid ilallah, cette capacité de s'en remettre à Allah, les yeux fermés, on pourrait dire. Ça, c'est énorme, ça. La possibilité de s'en remettre à Allah les yeux fermés. C'est-à-dire, même si tous les asbab, toutes les conditions sont réunies contre toi, si l'humanité se réunissait pour te faire du tort, tu sais que tu es dans le droit chemin, qu'Allah est avec toi, et cela te suffit amplement. Autre leçon à retenir également, donc là, ça c'est des leçons en conclusion. Oui, donc il donnait cet exemple que même Ali ibn Abi Talib, et si je vous dis Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qui revient à l'esprit quand on parle de Ali? La force, le courage. Ali ibn Abi Talib s'était illustré entre autres lors de Khandaq. Il avait une attitude vraiment héroïque à plusieurs reprises lors de la bataille des coalisés. Ali ibn Abi Talib, c'était vraiment quelqu'un de courageux. Et son courage, on l'avait vu dès son plus jeune âge, il n'avait pas 18 ans, il était très jeune, lorsqu'il a pris la place du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison pour permettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra. Il a risqué sa vie avec des personnes qui étaient armées autour de la maison, avec le sabre, prêt à entrer et à frapper sur ce corps qui se repose. Il savait qu'il avait mis sa vie en danger pour protéger, pour, on va dire, couvrir la sortie du prophète. Mais il l'a fait, mais sans la moindre hésitation et sans la moindre crainte. Ça aussi, c'est une force, confiance en Allah. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, avoue, il explique que dans certaines occasions où ils étaient assiégés, les musulmans ont eu affronté les polythéistes de Quraysh, ils ont eu affronté des tribus avec qui ils avaient des pactes de non-agression qu'ils avaient trahis, ils ont eu affronté des tribus bédouins qui se battaient parfois comme des sauvages et des barbares, ils ont eu affronté les Romains. Les musulmans ont eu à affronter les Romains, donc c'était des guerres sanglantes. C'était des guerres qui n'étaient pas voulues, qui n'étaient pas recherchées, mais lorsque cela arrivait, la vie de chaque individu était en danger. Et Ali ibn Abi Talib, il témoigne, il dit qu'il nous est arrivé dans certains moments où on était vraiment dépassé par les événements. Et lorsque la peur commence à envahir la poitrine, et dans le texte, dans le témoignage d'Ali, c'est précisé que lorsque la rougeur s'empare des yeux, c'est une expression qu'on n'a pas en français, qui est en arabe, ça veut dire que lorsqu'il y a la peur atteint un certain degré où on perd un peu ses moyens, dit quand ils avaient atteint ce degré de peur, de crainte, parce que l'ennemi était vraiment trop fort, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réfugiaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, un homme. Parce que être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça les encourageait. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'exemple même du courage. Et encore une fois, on répète, c'est pas un courage basé sur les hommes. C'est un courage basé sur la confiance totale en Allah azza wa jal. Et le mu'allif donne un exemple. C'est un char qui est plus complet que ce qu'on utilise d'habitude. Et ça, on l'a eu bien là sur Internet. Sur Islampedia, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des mafatih. Sur Internet, il y a des choses. Autant il y a des choses négatives, il y a des choses mauvaises, il y a des choses dangereuses. Mais celui qui recherche le bien, le khair, il trouve, mashallah, en quantité. On a une explication qui est plus complète que celle qu'on utilise en temps normal. Donc ce mu'allif, je ne connais même pas le nom d'ailleurs, c'est juste un copier-coller, il dit qu'il donne l'exemple de Hunayn. Et Hunayn, justement, on en parlait de Hunayn tout à l'heure. Hunayn, qui peut m'expliquer Hunayn? Pourquoi la bataille de Hunayn? Et à chaque fois qu'on enseigne une leçon de la Sira à nos enfants à la madrasa, on rappelle pourquoi cette bataille? Est-ce que c'est comme vos professeurs on parle aux enfants, hein, qui vous expliquent, ou à travers les manuels que vous lisez, que les musulmans, ils cherchaient la guerre, et l'islam s'est propagé à la force du sabre et de l'épée, ou il y avait une autre raison? Et là, on donne explication. Et pour Hunayn, encore une fois, c'est pas le prophète, mais les musulmans qui voulaient aller vers cette région. C'était la tribu c'est les Hawazin, qui avaient vu que les musulmans avaient récupéré la ville de Mecca. De Hunayn, c'est juste après Mecca. Ils avaient vu que les musulmans avaient récupéré la ville de Mecca, et du coup, les Hawazin, c'était une tribu rivale des Quraysh. C'était une tribu aussi presque aussi puissante et aussi forte militairement, entre autres, que les Quraysh. Et ils craignaient que après les Quraysh, ça va être le tour. Alors que c'était nullement l'intention des Sahaba. Donc ils ont pris les devants, ils ont décidé de lever une armée gigantesque, et d'attaquer les musulmans dans un endroit, dans un lieu géographique que les musulmans ne maîtrisaient pas, dans un lieu qui était où il y avait des montagnes. Et là, il y a eu pas mal de difficultés. Donc à Hunayn, et je répète encore, une bataille que ni le prophète ni les musulmans n'ont cherché, mais c'est les Hawazin qui ont attaqué les musulmans. Il y a eu une situation, il y a eu un début, on va dire, pas de défaite, mais l'armée musulmane était déstabilisée, et il restait autour du prophète alayhi salatu wassalam qu'une dizaine, illa nahwa 10 rijal, il restait environ 10 sahaba autour du prophète, face à une armée. Je répète, lorsque les musulmans ont connu des difficultés à Hunayn, l'armée musulmane s'est dispersée. Certains se sont retirés, il n'y a rien de pire que quand l'armée se disperse. Et il restait le noyau. Le noyau, c'était bien sûr le prophète alayhi salatu wassalam, entouré d'environ 10 sahabes. Et en face, il y avait toute l'armée des Hawazin. Et malgré ça, qu'est-ce que le prophète va faire d'après vous? Il va se cacher, il va demander aux sahabes, on se replie. Le prophète sallam se dresse. C'est moi qui rajoute fièrement, mais il dit à voix haute, il était sur sa monture, « Ana nabiyyu la kadhib, ana abdul muttalib. » Je suis le prophète d'Allah, et c'est là une vérité, ce n'est pas un mensonge, et je suis le fils de Abdul Muttalib. Et c'est une phrase qu'on a déjà entendue. Et en commentaire, par contre, les commentaires, c'est là qu'on voit les grands savants, le ilm qu'Allah leur a donné. les grands savants des siècles précédents, la connaissance qu'Allah leur a donnée, c'est ce qu'on appelle at-tafaqquh fi din, c'est ce qu'on appelle l'ilm al-istinbat, la capacité de comprendre, de voir la lumière à travers les textes. Ils disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement que c'est moi le prophète d'Allah, c'est moi le fils de Abd al-Muttalib, il se présente à l'ennemi, un ennemi qui ne le connaît pas. Hawazin, c'est loin. C'est loin de Makkah, de Madina. Ils ne connaissent pas c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent pas que c'est lui. Le prophète sallallahu n'était pas le porte-drapeau. Ils ne savent pas c'est qui. C'est-à-dire, s'ils voyaient 10 personnes, ils auraient été incapables. Et d'autant plus que le prophète sallallahu était d'une humilité. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait voir que c'est le prophète d'Allah avec plein de signes ostentatoires. Bilax, bien au contraire. Le prophète sallallahu va dire clairement aux gens, c'est moi que vous cherchez. C'est moi que vous cherchez. Ana An-Nabi la Kadhib. C'est moi le prophète d'Allah, c'est moi le fils d'Abd al-Muttalib, celui que vous cherchez, celui qui vous a fait quitter votre tribu pour venir nous affronter. Vous me cherchez, vous avez dispersé mes compagnons, je suis là, il y a 10 sahaba autour de moi, c'est bien moi que vous cherchez. Dit que le prophète s'expose. Yu'linu dhalika amanan amama an-nas, yurihim shakhsahu alayhi salatu wassalam fayarawnahu ويستهدفونه ومع ذلك هو في هذا الثبات الشديد ويأمر العباس أن ينادي إلى آخر الحديث. Et le prophète montre aux gens c'est qui le prophète. C'est lui le prophète, c'est moi que vous cherchez. Et malgré ça, il reste ferme avec cette assurance. Al-Thabat ou Shadid. Al-Thabat, il reste ferme. Une fermeté exemplaire. Cette fermeté qui n'est pas basée encore une fois sur le nombre. Parce que l'armée est décimée à cet instant. À cet instant, l'armée des musulmans, elle est dispersée. On n'appelle plus ça une armée. Quand il reste 10 personnes face à l'ennemi qui est organisé dans les montagnes avec des positions stratégiques, on peut dire que c'est fini. Et là, il montre aux gens que je suis le prophète d'Allah. Et cette confiance, ce n'est pas par rapport aux gens qui sont autour de lui, c'est cette confiance en Allah. C'est-à-dire que le prophète n'a jamais été habité, même pas une seconde, même pas un moment donné, par la peur. Vous pouvez me dire, la seule fois où il a eu peur, c'était quand? Celui qui trouve ça, mashallah. À quel moment de sa vie le prophète a eu peur?
Avant de partir.
Avant de partir, où ça? Mi'raj? Avant de mourir?
Peur
pour sa propre personne, je veux dire. Pour sa oumad, subhanallah. Il avait peur, il avait la crainte d'Allah tout le temps pour sa oumad. Hein? La grotte, la première révélation. Là, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Cette créature qui venait le voir, qui l'a serré, l'ange Jibril alayhi salam, pour la première révélation, là, il avait tellement peur que cette veine-là, cette partie se mettait à bouger tellement il était saisi, il était apeuré. Mais après ça, le prophète, quand il a eu le wahi, il a eu cette confiance en Allah Azza wa Jal, de sa vie, le prophète n'a plus jamais eu peur parce qu'il avait une totale confiance en Allah Azza wa Jal. Et en conclusion, celui qui fait le commentaire, il explique que voilà donc notre modèle prophétique dans toutes les situations de la vie. De nos jours, dit que nos jeunes, et même nos moins jeunes, ils vont essayer d'imiter toutes sortes de shayatrin al-insi wal-jin. N'importe quelle personne qui développe une mode ou une coiffe, hein, et les coiffes, je peux vous le dire, les dernières modes. Si vous voyez nos élèves, des fois, on enlève le bonnet, on connaît exactement qui c'est qui se coiffe comme un tel, comme un tel, comme un tel. C'est-à-dire, malheureusement, les jeunes, ils voient à la télé, il voit des personnes qui marquent des buts, un but ça vaut 15 000 euros, il voit, il lève une coupe, il gagne 150 000 euros, il pense que la vie est aussi simple, je vais faire comme lui, vous pensez que c'est ça la vie, est-ce que c'est ça, réussir sa vie, et donc les gens suivent, quelles que soient les choses, bonnes, c'est rare, mauvaises, c'est plus souvent, et les gens se disent que malheureusement, nos yeux, c'est pas nos yeux, c'est nos cœurs, sont détournés de la vérité, le modèle, le seul qui mérite d'être pris en exemple, qui est parfait et qui réincarne le Uswatun Hasana, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, Qudwatul Mu'minin, l'exemple pour les croyants. Fafihi kifayatun fi kamali fi kulli majal min al majalat. Il y a un modèle dans toutes les situations de la vie humaine, de toutes les situations de la vie humaine. Fi shaja'a, de le courage. Wal qiyada, dans le, comment on dit le qiyada, dans, il y a un terme qui est vraiment très adapté, subhanallah, un terme un peu moderne. La ilaha illallah. Khair, inshallah, dans cette capacité à diriger, à guider les gens. Il y a un terme en anglais qui est souvent utilisé dans les sciences modernes. Khair, ou un? le coaching, le leadership. Barakallah fik. Dans le leadership et le coaching. Le Prophète était vrai également un modèle. Quand les Sahaba avaient un problème, ils venaient se confier à lui. Le Prophète savait trouver les mots pour les réconforter, pour leur apporter une solution. Fi tadbir umur al-usra. Également en tant que père de famille. Pas uniquement quand on est sur un mimbar ou on est face à 400, 500 personnes, on est un modèle, mais à la maison, on est les pires des escrocs. On est le plus grand des paresseux, on est le plus injuste, ou le plus. Non, wallah. C'est également, fi tadbir umur al-usra, dans sa mission de père de famille ou d'époux, le prophète alayhi salat wa salam est également un modèle. Il a dit, les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont le meilleur des comportements avec ahlihim, avec leur famille, avec leur épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous dans le comportement avec mes proches, avec ma famille. Également dans sa relation avec as-sirar ou al-kibar, avec les grands, avec les petits, comme on a par exemple donné de l'estime et de la considération, même aux enfants. Il y a tellement d'exemples. Quand le Prophète rencontrait un papa avec son fils, il faisait salam au père, mais il faisait salam également au fils. Et ça, ça construit sa personnalité. Si tu rencontres un adulte, ça c'est une leçon pour nous aussi. Vous rencontrez un ami qui est un petit garçon ou une petite fille, faites salam au papa et vous ignorez l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, il se sent amoindri, il se sent exclu. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas sa place. C'est des trucs basiques, très simples, mais tout ça, c'est pas un instinct ou d'un être humain, c'est le modèle prophétique, c'est le wahyi min Allah, c'est ce qu'Allah a mis dans le cœur, par exemple, comme ça il faut agir, et c'est ce qu'Allah attend de chaque être humain. Donc ce modèle prophétique, pour revenir, remonter un peu la chaîne de ce qu'on a cité, le courage, qui est en vérité la confiance totale en Allah, Azza wa Jal. Et dans un autre kitab, dans une autre explication qui est aussi très bien fait, plus structurée encore, le mu'allif va citer 1, 2, 3, 4, 4 grandes leçons à retenir. Premièrement, la confiance en Allah, bien sûr, c'est ce qu'on a déjà cité. Et il explique en commentaire Al-Mawardi. On est plus ou moins entendu parler d'Al-Mawardi, Rahmanul Dik, Famine, Mu'ajizatihi. Parmi les miracles du Prophète sallam, Ismatuhu min a'da'ihi. Wa hum ala attami hanaqin alayhi wa shaddu talabin li nafihi. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'ennemis, autant avait-il de personnes qui voulaient porter atteinte à sa vie, jamais ils n'ont pu lui faire du mal, sauf les moments où Allah a voulu à Taif et lors de la bataille de Uhud. Mais mis à part ça, il y a le verset « Wallahu ya'asimuka minan nas ». Il dit c'est vraiment un miracle que tant d'ennemis qui l'entouraient, tant à l'intérieur de Médina, avec les tribus avec qui il avait fait un pacte de non-agression, mais qui intérieurement détester le prophète alayhi salatu wa salam, les tribus bédouins autour, les tribus, la tribu Quraysh et ainsi de suite, il n'a jamais été inquiété par ces gens parce qu'ils bénéficiaient de la protection d'Allah. L'exemple le plus flagrant, c'est lorsqu'il quitte Mecca pour aller à Madinah lors du Hijra. Comment il quitte, on pourrait dire, c'est comme si que ces personnes ne l'avaient pas vu. Avec la poignée de sable et le verset wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Jusqu'à la fin du verset, le prophète avait lu, les personnes ne l'ont même pas vu traverser. Il y avait une autre histoire, la montre est trouvée son propriétaire, mashallah. Il y a une autre histoire où le prophète était avec Abu Bakr al-Siddiq, si je ne me trompe pas, ça se déroule à Mecca. Ils étaient assis avec deux ou trois personnes. Il y a une femme qui rentre qui vient de cet endroit, vraiment énervée. Elle dit, où est Mohammed? Elle a envie d'insulter ou de le frapper parce que c'était à l'époque où il y avait cette haine contre les musulmans. Et les sahaba qui étaient autour de l'assemblée, ils avaient un peu peur, qu'est-ce qu'ils vont faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé cette femme entrer. Et la femme passe auprès, elle connaissait qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Quraysh, bin Bani Hashim, il a grandi avec eux. Elle passe auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle regarde et elle ne voit rien. C'est-à-dire, ça c'est hadith sahih. Il dit qu'à cet instant, Allah a voulu qu'il y ait comme un voile sur les yeux de cette femme. Elle voit Abu Bakr al-Siddiq, elle voit les autres. Le prophète est assis au milieu. Il dit, où est Muhammad? Où est votre compagnon? Et elle ne voit pas. Wallahu ya'asimuka minanna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est même pas levé. Il n'a pas demandé à ce qu'on le cache ou à s'enfuir. Il savait qu'il a la protection d'Allah azza wa jal hada. Et également, vous voyez, il dit que comment il entre ensuite? Après la hijra, 10 années plus tard, il entre à Mecca en toute sécurité avec les Mécois qui se sont totalement soumis à lui. Tout ça, ça montre qu'il avait l'aide d'Allah Azza wa Jal du début de sa mission jusqu'à sa mort. Hada. Autre leçon à retenir, le muhabba, l'amour que les sahaba avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayaient de lui donner ce qu'il y avait de meilleur. par respect, par amour pour lui, cet arbre qui était le plus grand avec le plus d'ombre, automatiquement ils ont donné au prophète, alors qu'au retour d'une campagne, et c'était en plein été dans certaines sources, et il explique, c'est cité que Sahaba était obligé de mettre des, après le terme j'avais pas bien vu, soit c'était du cuir ou autre chose sous leurs chaussures, tellement le sol était chaud, pour montrer que c'était en été. N'importe quelle personne pourrait choisir l'endroit qui le plaît. Et ça, on voit, hein. Je donne un exemple un peu décalé. Qu'Allah nous amène tous au Hajj, Inch'Allah. Quand vous allez au Hajj et qu'un groupe s'arrête pour Amina ou s'installer à Arafat ou à Muzdalifa, il n'y a pas de tente. Dans un endroit, il y a une tente. Si la tente, elle peut contenir 50 personnes, vous êtes à 50. Là, on voit vraiment le sens de nafsi. Ça, c'est par expérience. Hein. Après, vous pouvez l'appliquer dans d'autres situations de la vie. Chacun va chercher la place le plus confortable près de la clim où il n'y aura pas les entrées et les sorties des gens. Et là, on oublie. Et une fois, il y avait mon épouse qui était au Hajj, elle m'a expliqué qu'elle accompagnait une vieille dame, très vieille dame. Elle a essayé de faire son khidmat pendant le Hajj et elle était étonnée de voir les jeunes qui s'étaient appropriés toute la tente. S'étaler, prendre le reste, mettre le, ce qu'on appelle le bistara, le sac de couchage, ainsi de suite. Et cette vieille dame arrive, à peine si elle pouvait marcher, il n'y a pas une personne qui a bougé un sourcil, ni le petit doigt, pour faire une place à cette vieille dame. Elle était choquée, dit, subhanallah, ben, dit, ça s'appelle nafsi. Quand l'homme cherche son confort, ce qui lui apporte un profit immédiat. Les sahabas, subhanallah, bil'ax, ils cherchaient toujours à donner le mieux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si le prophète lui ne cherchait jamais le confort. Umar ibn al-Khattab, une fois il rentre voir le prophète qui était allongé sur des nattes tressées avec des dattiers, des feuilles de, les troncs de dattes, les palmes, d'accord? Et on avait déjà expliqué ça, c'est quelque chose de dur et piquant. Et quand le prophète s'est assis, le prophète s'était assis pour lui parler, il a vu les traces sur le dos Mubarak, il s'est mis à pleurer, dit au prophète d'Allah, tu vis dans une telle pauvreté, dans une telle situation, alors que là-bas, César ou le roi, les rois, les empereurs de Perse, ils ont tel bien fait, ils ont pas la ilaha illallah dans leur cœur. Le prophète dit qu'Umar ibn al-Khattab, tu ne préfères pas qu'Allah leur accorde ce dunya et qu'Allah nous laisse tout dans l'au-delà. Le prophète ne cherchait rien en termes de confort. Mais les sahaba étaient prêts à se sacrifier pour lui. On avait demandé à un sahaba, comment est kayfa kana hubbukum li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comment était votre amour pour le prophète? Il dit, kana wallahi habbu ilayna min amwalina wa awladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'i al-baridi 'ala al-dhama. Il dit, nous jurons par Allah qu'on aimait le prophète, que le prophète passait avant nos biens, avant nos propres personnes, avant nos enfants, avant nos parents, avant notre propre maman, et il nous était plus cher que de l'eau fraîche en plein été, en période de sécheresse, alors qu'on est assoiffé. On pouvait le prophète, la compagne du prophète, que de l'eau fraîche lorsqu'on était assoiffé dans un désert où il fait extrêmement chaud. Ça nous montre comment les sahaba aimaient le prophète. Et troisième enseignement, je ne dis pas le dernier, mais c'est le troisième, et c'est là qu'on va conclure. Le prophète était rahmatul lil alamin. Et il cherchait toujours à pardonner et il cherchait la guider des gens. Il dit que n'importe quel roi, n'importe quel empereur, n'importe quel amir qui est menacé par une personne et qui a le dessus, vous pensez qu'il va pardonner? Bien au contraire, il va l'emprisonner, il va l'exécuter, il va en faire un exemple. Vous pensez que quelqu'un essaie d'attaquer un roi, il pointe un pistolet sur sa tête et qu'après la garde républicaine, la garde royale arrive à le désarmer. Vous voyez que ce roi va dire, c'est bon, je te pardonne. Ça va pas ou quoi? Il aura minimum perpétuité. Si c'est pas la guillotine qui t'a réinstauré, si c'est pas la chaise électrique ou je ne sais pas quoi. Mais porter atteinte à un chef d'État, c'est vraiment plus qu'un crime de guerre. Personne ne pardonnerait une telle exaction. Le prophète alayhi salatu wassalam, non seulement il a pardonné à cet homme, mais il a préféré la guider. Et lorsque cette personne dit que j'accepte pas l'islam tout de suite, est-ce que le prophète va le tuer? Est-ce que c'est comme les gens disent que soit on devient musulman, soit les musulmans vous tuent? Le prophète l'a laissé partir, mais il a promis que jamais plus il va s'en prendre à lui, alayhi salatu wassalam. Et le commentaire dit que ma ajmalul afwi 'inda al-maqdira, le pardon le plus honorable, c'est lorsque tu as la possibilité, lorsque l'autre personne a tort et tu as entièrement raison, et que tu as l'autorité sur lui. Tu as la possibilité d'appliquer une sentence et que tu pardonnes. Ça, c'est un pardon qui est honorable. Quand tu peux sévir, quand tu es en droit, et que la personne a 100% tort, et que tu as le droit de le punir, et là, tu pardonnes. C'est comme quand on est en colère. La colère qu'on contrôle, c'est quand ? C'est lorsqu'on vous a fait du mal, et que vous êtes en droit, que si vous mettez en colère, tout le monde comprend. Que là, franchement, c'était normal. Mais que là, tu te retiens, ou le vrai kafir min al-ghayz, c'est celui qui se retient alors qu'il peut, ou que ce serait justifié de se mettre en colère, mais il le fait pour Allah. Donc, il a dit que cette faculté à pardonner alors qu'il a le droit de se venger, mais ça montre vraiment un comportement prophétique. Et dans certains commentaires, il est même expliqué que cet événement-là, cet homme, il y avait même le nom de la personne, frère Inch'Allah, et cette personne a rapporté cet événement à son qaum, à son peuple, et là ils ont compris réellement qu'ils n'avaient pas en face d'eux uniquement un chef d'armée ou un chef de tribu, ils ont réellement compris que cet homme-là avait des qualités prophétiques. Et dans certaines versions, il est dit que cette personne, par la suite, a accepté l'islam. Et beaucoup de personnes, parmi ce qaum, parmi ce peuple, s'étaient également converties à l'islam. Voilà, on a retrouvé le texte qui stipulait ça. « Wa dhakara al-waqidi, al-waqidi rahimahullah » Il explique que « annahu aslama » Il a accepté par la suite l'islam. « Wa raja'a ila qawmihi fahtada bihi khalqun kathir » Il est retourné près de son peuple et beaucoup de gens se sont convertis à l'islam grâce à son témoignage, grâce à cette personne. Donc on va s'arrêter à là. On retient le courage, la confiance du prophète Hassan en Allah Azza wa Jal et al-yaqin wa tawakkul, qu'Allah donne la possibilité de retenir ce comportement prophétique et qu'Allah nous accorde un niveau de foi où, en toutes circonstances, dans les situations au quotidien surtout, on arrive à placer notre confiance en Allah Azza wa Jal et à placer notre confiance en lui, les yeux fermés. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin.